chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Bonjour chers auditeurs, je vous retrouve pour cette nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, avec dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel, le comte de Paris, le prince Jean d'Orléans. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Madame.
Merci d'être venu nous voir, c'est très gentil.
Je suis ravi.
Et je voudrais évoquer l'aspect politique. L'archiduc Otto de Habsbourg avait un rôle politique dans son pays. Est-ce que vous auriez envisagé la même chose pour vous, Monseigneur?
Alors, j'interviens sur un certain nombre de sujets, donc je fais de la politique, mais sans, voilà, pas, c'est pas dans le modèle tel qu'on le conçoit aujourd'hui.
Ça n'est pas de la politique partisane.
Voilà, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, donc j'interviens sur un certain nombre de sujets particuliers, des sujets de société, des sujets parfois politiques. Il m'arrive d'avoir à faire quelques tribunes, quelques entretiens.
Vous êtes très présent dans les médias sociaux.
Voilà, et sur les réseaux sociaux. Donc c'est un modèle qui est assez simple pour quelqu'un qui a beaucoup d'occupations. Donc voilà, je pense que c'est une façon de faire. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller sur le terrain. Donc là-dessus, on le voit à travers les réseaux sociaux parce que j'en fais les comptes rendus assez régulièrement. Et puis il y a des choses voilà que je garde pour moi parce que c'est plus c'est voilà ça me regarde moi et les personnes que je rencontre donc voilà il faut aussi aller à côté des réseaux à côté des interventions dans les médias il faut aller sur le terrain
et rencontrer des Français
voilà et être dans le réel et pas simplement voilà moi j'ai de la chance de pas être, comment dire, mon rythme n'est pas déterminé par les élections, et donc, voilà, j'ai pas besoin de faire campagne à un moment donné. Je fais ça, voilà, j'étale un peu mes rencontres dans le temps, et donc ça me permet de m'attacher sereinement à mon pays et aux Français.
Et savoir ce que vous pensiez de l'évolution de notre société et du monde politique en particulier dans cette période électorale.
Oui, vous l'avez vous-même dit, en fait, la sociologie française a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. On a vraiment aujourd'hui une population française regroupée autour des grandes métropoles et puis des grandes villes qui fait à peu près 70% de la population. Et puis vous avez ce qu'on appelle la France périphérique, donc les campagnes et puis les villes un peu plus petites. Et on le voit dans la dernière élection, en fait on retrouve ça, la répartition des voix, les 70% étant répartis entre le score de M. Macron et le score de M. Mélenchon, avec une fracture sociologique de classe, et puis le score de Madame Le Pen dans cette France périphérique. Et donc on voit bien que les clivages qu'on remarque dans la société se retrouvent dans le vote tel qu'on a pu le voir aux élections, avec bien sûr le report d'une grande partie de ces votes, en particulier de celui de Monsieur Mélenchon, sur Monsieur Macron et peut-être une toute petite partie sur Madame Le Pen.
Thank you.
Et cette évolution, d'après vous, date de quand? Ça a commencé à tourner de cette
Ah, vous
façon?
savez, c'est un peu la conséquence de la philosophie générale issue des Lumières, individualiste. Et je dirais ensuite l'après-guerre, les modifications qui ont été faites dans les années 80 avec le renoncement à un certain nombre de moyens de souveraineté politique, économique, sociale. Et finalement, une société qui est un peu laissée à elle-même avec des grandes fractures. On a vu un certain nombre de ces fractures, notamment les manifestations des Gilets jaunes, hein, qui un peu canalisaient l'ensemble de ces fractures entre une classe plus riche, une classe plus pauvre, entre des gens attachés au pays ou dans la réalité concrète des choses, et puis des gens plutôt dans l'idéologie. Et je pense que on risque de voir de plus en plus ce genre de mouvement apparaître au fur et à mesure, parce que malheureusement, dans le débat politique, la recherche du bien commun, c'est-à-dire du bien de l'ensemble, qui permette aussi le bien de chacun, un peu comme le soleil, hein. Le soleil, il permet de voir l'ensemble, et puis quand on est sous ses rayons, et ben, il réchauffe chacun d'entre nous. Donc voilà, c'est ça un peu le bien commun. Et ça, c'est complètement absent de la réflexion politique.
Vous parliez des lumières, monseigneur. Est-ce que vous pensez que les lumières auraient pu être l'élément déclencheur de la Révolution française?
Ah ben ça a été l'élément déclencheur. Et des différentes révolutions qui ont lieu ensuite, hein. La révolution marxiste et industrielle, la révolution des années 68 dans les mœurs, tout ce qui est un peu structuré a été mis à plat, et puis on le voit là, on continue avec certains corps, comme le corps des ambassadeurs, le corps des préfets. En fait, on a une société liquide, individualisée, qui, pour retrouver une certaine structure, se regroupe dans ce qu'on appellera aujourd'hui le communautarisme. Donc,
Pour faire court, on peut dire que c'est la faute à Rousseau.
voilà, un peu parce que c'est la conséquence philosophique de tout ça. Et puis avec ces nouvelles philosophies du genre wokiste, etc., où c'est vraiment,
La déliquescence.
oui, c'est une société liquide. C'est une société liquide. Et une société liquide, ben, malheureusement, elle se fait un peu marcher dessus, et c'est ce qu'on a vu avec la pandémie et le confinement, et c'est ce qu'on voit avec la guerre. Et je suis pas sûr qu'on arrive avec une telle philosophie, à redresser les choses.
Est-ce que vous
Déjà.
pensez que le wokisme, monseigneur, vient directement des États-Unis et que nous l'adoptons par une espèce d'intérêt ou
Je
de...
sais pas, je sais pas. Je crois que ça vient certainement. Oui, ça. C'est, beaucoup de mouvements de ce type arrivent des États-Unis. Après, voilà, on les accepte, on les accepte
Et ça
pas.
prend en France ou
Ben,
très peu?
je pense que malheureusement ça prend, parce que ça rentre dans les esprits d'une société en fait qui a perdu le sens de la résistance et qui ne réagit plus. D'ailleurs, il y a plus de. On regarde dans la société, il n'y a plus de contre-pouvoir. Les syndicats, c'est plus les années où il y avait les grèves, il y a plus de, voilà, il y a plus de contre-pouvoir. L'Église a perdu son contre-pouvoir aussi, parce qu'elle est dans le, elle suit le mouvement, alors que, voilà, peut-être
Au
qu'elle
lieu de
devrait être,
précéder,
voilà,
vous
peut-être qu'elle
voulez
devrait être
dire?
précurseur d'un certain nombre d'orientations. Même le Parlement, devient pour la majorité une chambre d'enregistrement. Voilà, il y a encore le Sénat qui joue un peu son rôle dans la mécanique. Le Conseil constitutionnel est lié par des intérêts économiques qui sont semblables à ceux du gouvernement. On a l'impression que la politique est devenue un business. Voilà, c'est devenu un business. D'ailleurs, on fait appel à des cabinets de conseil pour changer les choses, alors qu'il y a une expertise auprès de nos grands serviteurs de l'État.
Les hauts fonctionnaires devraient
Voilà.
être capables
Mais ils
de
sont, mais ils sont, mais
résoudre.
on ne les sollicite plus. Voilà.
Vous voulez
Donc,
dire qu'ils sont payés à rien faire?
non, 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 c'est pas ça. Non, non,
Ben,
non,
si
non,
on...
non, c'est pas ça. C'est qu'ils voudraient, voilà, ils voudraient bien. Ils voudraient bien. Ils le font d'ailleurs. Il y a beaucoup de grands serviteurs de l'État qui vraiment sont dans leur job et font. Mais le politique ne s'appuie plus comme il s'appuyait autrefois sur eux. Comment dire, un gouvernement et un chef d'État, aujourd'hui, c'est 5 ans, Donc en 5 ans, voilà, vous n'avez pas beaucoup, vous pouvez pas faire grand-chose. Voilà, il faut pouvoir s'inscrire dans le long terme. Alors c'est vrai que quand on a deux mandats, c'est plus facile, mais c'est difficile de faire croire aux Français qu'on peut faire quelque chose pendant 5 ans, alors que les 5 années précédentes, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc,
Avez-vous le sentiment, malgré votre position très particulière, de pouvoir influer sur la politique, d'être, enfin, vous avez des idées qui peuvent être pragmatiques et que vous
alors,
voudriez mettre
influer,
en...
je ne sais pas. Influer, je ne sais pas. En tout cas, il est clair que voilà, j'ai un certain nombre d'échanges avec des politiques que je connais, locaux ou nationaux. Quelques rencontres, quelques déjeuners, quelques échanges lors d'inaugurations, etc. Et donc,
Vous êtes toujours très sollicité.
alors, je ne sais pas si je suis sollicité, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, il y a autant de sollicitations de ceux que je rencontre que de sollicitations de ma part pour les rencontrer et d'avoir un échange, voilà, sur les sujets qui me préoccupent. Et
Vous
donc,
aviez organisé une, je ne sais pas si c'est une fondation ou une association, Gens de France.
oui, toujours,
Ça perdure.
ça marche toujours, ça marche toujours. Mais bon, c'est moins quelque chose qui est dans le domaine que nous venons d'évoquer. C'est plus voilà, une structure associative dont l'objet est de favoriser la relation entre les personnes, contribuer au bien de la France et à son rayonnement à l'étranger. Donc,
Avec des visées
je dirais,
monarchistes.
ça contribue autour de la famille royale. Donc, ça contribue à ces contacts que je prends, ou ça favorise peut-être, ou les contacts que je prends font partie de ce travail général. L'idée, c'est vraiment la défense du bien commun, la défense de notre pays. Et bien sûr, pour moi, aujourd'hui, le système monarchique me semble être le plus approprié. Face à un environnement difficile, on le voit d'ailleurs que beaucoup de ces pays qui ont une monarchie s'en sortent plutôt pas mal, que ce soit
Beaucoup de pays
l'Espagne,
en Europe.
l'Angleterre, voilà, c'est ça, l'Espagne, l'Angleterre, on évoquait tout à l'heure le Danemark
La
et
Belgique, la
d'autres,
Suède,
voilà, et d'autres.
le Luxembourg.
Pour plusieurs raisons, on reviendra sur la monarchie, mais je vais terminer le sujet Jean de France. Et dans le rôle de l'association, une action particulière qui a été monté d'ailleurs ici à Dreux avec les sous-préfets successifs, qui s'appelle la Nation en partage. C'est de permettre aux jeunes d'ici d'accéder au patrimoine ou d'accéder à l'histoire à travers le patrimoine. L'idée étant de pouvoir leur faire comprendre en fait l'environnement dans lequel ils sont et les racines qui ont contribué à ce que Dreux devienne ce que c'est aujourd'hui.
Et leur permettre de l'apprécier.
Voilà, et leur permettre de l'apprécier. Donc, on organisait beaucoup de visites à la chapelle royale. Et on
Que vous
arrivait
faisiez
à,
vous-même?
ouais, que je faisais moi ou mon épouse, parfois quand les groupes étaient trop importants et on se partageait un peu le travail, on arrivait à garder les jeunes garçons et filles au moins pendant une demi-journée. Et ça se terminait toujours par une petite collation à la maison. Donc, on sortait la jolie vaisselle, pouvait échanger avec eux et prendre quelques photos, etc. Donc c'était très agréable et très
Et
positif.
puis ils apprenaient à vous connaître.
Voilà, très très agréable et positif. Et donc bien sûr, la monarchie et l'histoire de notre famille fait partie de cet environnement drouais. Et voilà, et on voit le bien que ça apporte. Enfin, on l'espère. Mais je pense que ça a un côté, y a un côté positif. Hein. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut envisager au niveau national. D'abord parce qu'il y a une représentativité ou comment dire, une figure particulière dans laquelle on peut se retrouver et pas simplement une idée générale.
Vous succédez à 43 de
Voilà,
France.
c'est plus simple. C'est plus simple. D'une part. D'autre part, on prend un peu de recul par rapport à l'esprit partisan qu'on évoquait en début d'échange. Ensuite, quand les choses vont mal, ça freine la figure du roi ou de la reine. On voit ça en Angleterre, hein, ça a été le cas pendant la guerre. Ça a été une figure d'encouragement,
Un ciment de la
voilà, un ciment de la
nation.
nation. Et puis ça permet aussi de faire coexister deux rythmes. un rythme long et un rythme court. Un rythme long qui permet de donner des perspectives et puis un rythme court qui est la gestion au quotidien des choses. Voilà, je vais prendre un exemple tout simple. On a commémoré il y a quelques temps à Amboise les 500 ans de Léonard de Vinci, parce que Léonard de Vinci est enterré à Amboise.
Au Clos Lucé.
Non, non, il est enterré à Amboise. Il a vécu au Clos Lucé, mais il est enterré dans le château, enfin, normalement sous la chapelle Saint-Hubert. Et à l'époque, il y avait eu un petit différend entre la France et l'Italie, puisque le Premier ministre italien avait participé à une manifestation des Gilets jaunes. Et donc, le président de la République avait rappelé son ambassadeur. Et j'avais écrit au président de la République en lui disant que c'était trop bête, on approchait de Léonard de Vinci, qu'il y ait ce différend entre la France et l'Italie, et qu'il y aurait peut-être une solution à ce que les deux, voilà, que le président de la République puisse inviter son homologue italien pour sceller la réconciliation de la France et de l'Italie autour du personnage de Léonard de Vinci, qui a quand même
Extrêmement
été, voilà,
apprécié,
qui a été
oui,
aussi le lien
très
entre la
aimé.
France et l'Italie à la Renaissance.
Et puis on a la Joconde quand même, au musée du Louvre.
Et en fait, comment dire, si le président Mattarella n'avait pas eu son statut particulier, indépendant du gouvernement italien et de son représentant, le Premier ministre, jamais cette réconciliation n'aurait pu être faite. Parce que le président italien représente la nation italienne et pas l'Italie dans la gestion du quotidien. Et donc, c'est comme ça que cette réconciliation a pu être faite. Et donc, on voit bien qu'il est important de pouvoir garder un rythme coexistant, mais différent entre le président de la République et son premier ministre.
Le même qui existe entre la reine Elisabeth II et Boris
Voilà,
Johnson.
voilà. Ce qu'il y avait avec le septennat, mais ce qui serait sans doute plus astucieux avec, voilà, avec une monarchie, parce que ça. Voilà, puis ça donne aussi un aura un peu plus au pays, ça donne un aura plus fort. Et puis voilà, il y a une
Une
image,
représentation qui n'est
voilà,
pas partisane.
et une image de marque, voilà, et une image de marque. Donc
Bien sûr.
c'est important. Et on le voit bien, l'ONU a toujours aussi des ambassadeurs de bonne volonté. Donc une figure spécifique qui est là pour voilà, porter haut les couleurs de l'action qui est menée. Donc il y a plein d'autres exemples.
Beaucoup de Habsbourg, d'ailleurs, ont été ambassadeurs.
Il y en a maintenant parce que, en fait, ils sont très. Dans les pays de l'Est, le lien s'est tout de suite fait entre le pays et sa monarchie. Et on voit, par exemple, en Hongrie,
En Roumanie,
on
j'allais.
voit déjà en Roumanie, avec le rôle de la gardienne héréditaire qui est la princesse Margareta. On voit ça en Yougoslavie. Il y a un statut spécifique.
Alors là, c'est peut-être compliqué parce que finalement, la Yougoslavie n'existe plus.
En fait, la Serbie,
La
voilà, la
Serbie.
Serbie. Et on voit ça maintenant avec la Hongrie. C'est-à-dire que vous avez deux ambassadeurs de Hongrie qui sont des Habsbourg. L'un est au Vatican, je ne sais pas s'il est pas retourné, et puis l'autre est ici à Paris, et qui est le second fils de Otto. Donc on voit, voilà, il y a des idées, il y a des idées à prendre.
Mais alors pour le citoyen lambda, je déteste ce mot, mais ça veut dire un petit peu la même chose. Est-ce que ces citoyens n'osent peut-être même plus rien dire de peur de ne pas tomber dans le politiquement correct et d'avoir contre eux des réactions qui sont très très négatives? Est-ce qu'on ose encore dire les choses que l'on ressent?
Oui, je pense que les gens disent les choses qu'ils pensent. Après, ils voient souvent que ça n'aboutit pas. Donc, sans doute, une partie se retrouve dans la désaffection des urnes. Donc, on est quand même à un tiers de la population qui ne vote pas. Et même parfois, ça monte à un quart pour certaines élections. On a ensuite certains qui votent nul ou qui votent blanc. Donc, si on ajoute tout ça, ça fait quand même une certaine, voilà, une certaine.
Le premier parti de France vote blanc, quoi.
Ah oui, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Il y a peut-être aussi une réforme du système électoral à faire pour prendre en compte cette partie-là des choses. En fait, il faut remettre les choses à plat parce que là, on est sur un système qui est le quinquennat. En fait, ça ressemble à rien, ça ressemble à rien, et puis ça
Pour vous, ça n'est
favorise.
pas assez long.
Oui, ça, pour le président. Et ça favorise l'électoralisme et la clientèle électorale. Et on le voit dans les campagnes, pas les campagnes agricoles, mais les campagnes électorales. En fait, on cible un ennemi. L'histoire, c'est pas de proposer quelque chose, mais c'est de d'écarter le principal opposant. Et on l'a vu dans la façon dont les gens qui font campagne ciblent les opposants, etc. Et donc,
C'est du clientélisme.
et puis on en voit un qui dit avant, Monsieur Macron est mon principal opposant, et puis qui pendant la période du second tour, l'entre-deux tours, dit, ben, il faut voter
Change
pour moi,
d'opposant.
voilà, il faut présenter Monsieur Macron, et puis qui, une fois que Monsieur Macron a été élu, dit, ben, Monsieur Macron est mon principal opposant. Donc on se dit, mais écoute, voilà, je suis d'accord, mais bon, à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans l'idée politique.
Et il y a aussi une certaine désespérance, j'imagine, de la population. Je vais peut-être vous faire sourire, mais je voudrais vous raconter une toute petite histoire. C'est passé sur Facebook récemment. C'est un petit dessin avec deux personnes qui prennent un verre dans un bar. Ils sont accoudés sur le zinc. Et puis, il y en a un qui a l'air préoccupé et qui dit, c'est terrible, dans cette France, le pire, c'est l'ignorance et l'indifférence. Et l'autre répond d'un air très désabusé, je sais pas et je m'en fiche.
Oui,
Et finalement,
oui, oui. Oui. Ben ouais, c'est un peu ça.
on tourne en rond,
C'est un
quoi.
peu ça.
Ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, rien ne
Ouais.
changera. S'ils votent pour un tel ou un tel, ça ne changera pas non plus. C'est un peu
Mais oui, mais parce que, comme je le
aquabonisme.
disais tout à l'heure, en fait, dans les années 80, les moyens de la souveraineté, on s'est débarrassé de ces moyens-là au profit de l'Europe, qu'on n'arrive pas à construire, sauf pour trouver des intérêts économiques et s'y trouver une cible. Mais sur le fond, voilà, il n'y a pas.
Ça ne marche
Je
pas.
sais pas, je sens pas une Europe forte et indépendante, quoi. Je sens pas non plus une France forte et indépendante. Donc on a donné ces moyens de souveraineté à l'Europe et aussi à des institutions indépendantes. Comment a été gérée la crise de la pandémie? En fait, c'est des structures indépendantes de personnes non élues qui ont géré la pandémie. Et même
Donc on a
dans la
abandonné
déclaration de.
notre souveraineté.
Oui, dans la déclaration de guerre, même l'Europe, c'est sans lien dans la guerre contre la Russie, sans lien particulier avec les chefs d'État. La personne non élue qui est Madame von der,
Le Wen, je crois.
voilà,
Le Wen.
dont j'ai du mal à prononcer
Moi
le
aussi.
nom, mais la responsable européenne qui prend des décisions
Elle n'est pas élue.
alors qu'elle n'est pas élue. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se font sans contact avec la population. Et quand la population émet un souhait ou manifeste un désaccord, elle est parfois de façon un peu musclée, parce que si elle ne le fait pas comme ça, personne ne l'écoute. On la met sur le chemin de la violence, etc., pour dire, ah, mais il y a. Alors que le mouvement, au fond, il est un mouvement de désapprobation générale et de cris d'alarme sur une situation compliquée pour un bon nombre de nos concitoyens.
Et quand le peuple a voté contre l'Europe, un petit peu après, si je me souviens bien, c'était M. Sarkozy qui a de toute façon,
Mais oui, mais c'est comme ça, hein,
qui est passé
voilà,
outre.
tant qu'on. On s'est dit, d'ailleurs, on l'a vu hein, dans l'élection. De Monsieur Hollande, la presse a joué le rôle canalisateur pour lui. Donc
Donc les médias font
voilà,
l'élection.
ils y pourvoient beaucoup à coup de messages qui vont toujours dans le même sens. Au bout d'un moment, on se dit bon, il vaut mieux qu'on s'occupe de ses affaires.
Vous prenez ça pour du matraquage,
Oui, un peu,
publicitaire
oui,
presque.
matraquage en fait. Oui, on a toutes ces, et puis c'est comment dire, toutes ces chaînes d'infos en continu où finalement on peut pas prendre du recul pour réfléchir sur un événement et c'est pas très bon. Je pense qu'il
CNews,
faut,
BFM,
je pense qu'il
LCI
faut,
et France Info.
prendre un peu de recul et prendre un peu d'élévation et analyser ça et ensuite. Voilà, prendre un certain nombre de mesures qui sont des vraies mesures politiques liées à la souveraineté, à l'autorité. Et à mon avis, c'est la seule façon pour que notre pays retrouve une certaine dynamique.
Pour retrouver notre souveraineté, justement, monseigneur, qu'envisagez-vous?
Ben, déjà, il faut qu'on soit qu'on soit souverain sur la partie régalienne. Donc, il faut qu'on ait une certaine maîtrise de nos finances, une certaine maîtrise de nos de l'armée, de la diplomatie et puis de la justice. C'est la première chose. Ensuite, l'économie, le problématique de l'économie, c'est que c'est Davos qui détermine en fait les grandes orientations économiques des prochaines années.
Les pays n'ont rien à dire.
Et les pays, bien sûr, ils disent ce qu'ils peuvent, hein. Certains politiques sont fascinés par ce qui se passe à Davos, veulent leur faire partie et sont plus fascinés par la personnalité de celui qui dirige Davos que le président américain ou que le président russe ou que alors que c'est le président américain et le président russe qui dirigent qui dirige son pays. Voilà, on marche un peu sur la tête.
Vous n'êtes pas très optimiste, monseigneur.
Non, là, c'est pas moi qui suis pas optimiste, c'est la situation qui est
La
pas.
situation que vous
Voilà, la
constatez.
situation est pas géniale. Après, voilà, il y a toujours des personnes de bonne volonté qui souhaitent sortir un peu de l'ornière et voilà, retrouver une dynamique plutôt bonne. Mais c'est partout pareil, ça peut être comme ça aussi dans des institutions particulières et qui ont besoin voilà, d'être redynamisées, ou des familles, ou des efforts qu'on doit faire quand on est dans son travail ou pour les enfants à l'école. Voilà, il y a une impulsion nouvelle à donner. Et je pense que on arrive à la fin du modèle social, économique, politique tel qu'il avait été envisagé après-guerre. Et donc je pense que tout ça doit être repensé
On
et
atteint la
remis à
limite
plat. Voilà, ça doit être remis à plat.
de l'efficacité. Merci, monseigneur, pour ces émissions qui ont été très intéressantes et qui ont permis aussi de, je dirais pas cerner votre personnalité davantage, mais c'est un petit peu ça. On vous connaît très peu, quelquefois très mal, et je vous remercie infiniment d'être venu
C'est moi,
au
très
micro
heureux,
de Radio Grand
voilà, très
Ciel.
heureux d'avoir pu participer à cette émission.
Merci, monseigneur,
Merci, madame.
et à bientôt, vous
À
l'avez
très
promis.
bientôt, absolument.
Roland Richard a enregistré cette émission et la réalisera pour vous. À bientôt, chers auditeurs. Au revoir.